Chapitre 13. Nietzsche se pencha, saisit un coin du tapis et le souleva pour révéler le parquet qu'il recouvrait.
« Nous pouvons vous aider ?» demanda Cassia.
« Oui, débarrassez-nous du tapis, je veux que le sol soit dégagé. »
Cassia et Val eurent vite fait de rouler le tapis puis de l'appuyer contre un mur. Dessous, le parquet en pain décoloré par l'âge portait une multitude d'éraflures, de petits trous et de taches. Callan se rappela que la citadelle avait été construite en même temps que la haute muraille, destinée à isoler les troupes de l'empereur Soulacane dans le troisième royaume. À l'époque, elle faisait partie du dispositif défensif visant à protéger le monde d'un abominable fléau.
« Le corps de Richard n'est pas exposé au passage du temps, » dit Rouge sans se retourner. « Tu ne m'as pas menti. »«
Alors nous avons toutes nos chances ?»
demanda Callan, le cœur gonflé d'espoir. Rouge doucha son enthousiasme.
« Je veux simplement dire que tout espoir aurait été perdu si ça n'avait pas été le cas. »«
Donc nous avons une chance, » insista Callan.
« Sans doute, oui, »
répondit la voyante avec un sourire sans véritable chaleur. Callan aurait donné cher pour savoir ce que cette femme voyait dans les flots du temps. Encore que, à bien y réfléchir, ce n'était peut-être pas si enviable. Trop souvent, l'avenir n'était qu'un océan de douleur. Envoyée un peu plus tôt en mission par Nietzsche, Lorine fit irruption dans la chambre. Le souffle court, elle referma la porte avec un pied, puis tendit à la magicienne une coupe cabossée et rayée.
« Du métal, comme vous me l'avez demandé ?»
Nietzsche s'empara de la coupe, lui accorda à peine un regard et la fit passer à Callan.
« Trois doigts devraient suffire. »«
Pardon ?
J'ai besoin d'un peu de ton sang, »
répondit distraitement la magicienne.
« Trois doigts, ça devrait aller. »
La coupe entre les mains, Callan, hésitante et troublée, regarda Nietzsche faire des pas précis afin de mesurer soigneusement de mystérieuses distances.
« Je vais t'aider, Callan, » proposa Rouge,
se détournant de la fenêtre.
« Non. »
Nietzsche pivota sur elle-même, gagna la table de chevet et éteignit la lampe.
« Non, personne d'autre que Callan ne doit toucher la coupe. »
Rouge resta où elle était, jeta un regard en coin à la magicienne, mais ne fit pas de commentaire. Callan dégaina lentement son couteau. Après s'être assuré que la fenêtre était bien fermée et verrouillée, Nietzsche se retourna et vit ce que l'inquisitrice s'apprêtait à faire.
« Attends !»
lança-t-elle.
« Une prophétie dit la chose suivante. Une épée est sacrée lorsque sa lame est le dernier espoir. Je crois que c'est lié à cette nuit. »
Callan regarda Richard, puis l'épée appuyée à la tête de Lee.
« Traduction ?»
demanda-t-elle à la magicienne.
« Ne te sers pas de ton couteau, mais de l'épée de Richard. » Ces mots, « l'épée de Richard », firent frissonner Callan. Pour défendre la vie, cette arme avait fait couler tant de sang.
Essayant de ne pas y penser, l'inquisitrice rengaina son couteau et tira l'épée du magnifique fourreau. Alors que la note métallique retentissait dans la chambre, elle s'assit au bord du lit, posa la coupe sur ses genoux et s'efforça d'oublier que Nietzsche lui demandait quand même une grande quantité de sang. Que voulait-elle en faire? Là encore, mieux valait ne pas trop s'interroger. Cessant d'intermoyer, Callan passa la lame sur son poignet à l'intérieur. Au début, elle ne sentit rien, tant le tranchant était acéré. Mais lorsque du sang jaillit, la douleur vint avec. Orientant son bras, l'épouse de Richard fit en sorte que son fluide vital coule dans la coupe. Nietzsche mesura de nouveau très précisément de courtes distances. Puis, elle disposa 8 bougies sur le sol pour former un grand cercle. D'un geste, elle les alluma avec son don. Ensuite, elle approcha du lit.
« C'est suffisant, »
dit-elle en baissant les yeux sur la coupe. Quand elle posa une main sur la plaie, le sang continua de couler entre ses doigts. Puis Callan sentit dans son bras une décharge de pouvoir.
« Voilà qui devrait fermer la blessure, »
dit la magicienne. En tout cas, l'hémorragie cessa, même si la douleur ne disparut pas. Nietzsche prit la coupe, puis se tourna vers les morts de Sith.
« Veuillez attendre dehors, s'il vous plaît.
Montez la garde devant la porte et ne laissez entrer personne. Vous-même, restez dans le couloir, quoi que vous entendiez. N'intervenez sous aucun prétexte, c'est compris ?
Que risquons-nous d'entendre ? Demanda Cassia soupçonneuse.
Je n'en sais rien,
répondit Nietzsche. Elle fit face à son cercle de bougies.
Les cris des morts, ce genre de choses. N'ouvrez pas la porte, c'est tout. Je dois laisser entrer le royaume des morts dans cette chambre. Il faut que la porte reste fermée, faisant obstacle aux ténèbres.
Cassia consulta ses deux collègues du regard.
Nous nous ferons un plaisir de ne pas l'ouvrir dans ce cas.
Et si une de vous trois nous appelle au secours ?
Demanda Val.
Si vous entrez, c'est vous qui appellerez au secours.
Compris, fit Val. La porte restera fermée.
Dès que les morts de Sid furent sortis, la porte refermée derrière elle, Callan se sentit terriblement seul. Bien sûr, il y avait une magicienne et une voyante avec elle, mais ces deux femmes jouaient avec des forces qu'elles pouvaient à peine imaginer. Pire encore, Nietzsche allait renouer avec ses anciens pouvoirs de sœur de l'obscurité. Callan regarda Richard. Le savoir mort lui déchirait l'âme et le cœur. Quand elle leva les yeux, l'inquisitrice vit que Nietzsche dessinait un cercle sur le sol avec son sang. Trempant les doigts dans le fluide vital, elle l'appliquait ensuite sur le parquet usé.
« Que fais-tu ? » « Je dessine le cercle extérieur de la grâce en commençant par la frontière avec le royaume des morts. »
Parmi ses plus anciens souvenirs d'enfance, Callan gardait l'image de détenteur du don en train de dessiner une grâce. Cet acte était à la fois un témoignage de dévotion et une invocation magique. Dans la vie des sorciers et des magiciennes, c'était un moment chaque fois capital. Et si le diagramme semblait assez simple, il fallait une vie d'étude pour en maîtriser toutes les subtilités. Même si le dessin était en deux dimensions, il en représentait quatre. Les trois dimensions physiques de l'espace plus le temps. Faire en sorte que cette complexité se reflète sur un simple diagramme n'était pas un jeu d'enfant. Dans sa vie, Callan avait rarement vu quelqu'un oser dessiner une grâce avec du sang, et jamais avec le sien, bien entendu. Dessiner une grâce avec du sang, elle le savait, touchait à l'alchimie et pouvait invoquer des forces obscures qu'il aurait mieux valu ne pas éveiller. Mais Nietzsche devait prendre ce risque. Pour créer une grâce, il fallait respecter une séquence précise. D'abord le cercle extérieur, tout ce qui était dehors représentant la lisière de l'infini royaume des morts, le domaine du néant ou de l'éternité selon la façon dont on voyait les choses. Et si la grâce devait naître à l'existence ainsi, c'était pour une très bonne raison. La création commençait dans le cercle extérieur cerné par le néant. En murmurant des incantations dans une langue que Callan n'avait jamais entendue, Nietzsche plongea de nouveau les doigts dans la coupe. Les utilisant comme un pinceau, elle dessina un carré aux dimensions extrêmement rigoureuses, l'application d'une formule mathématique qu'elle connaissait par cœur, dont les quatre pointes vinrent toucher la circonférence du cercle. Représentation du voile, ce carré était toujours dessiné en second, afin de protéger le monde des vivants du pouvoir destructeur du royaume des morts. Nietzsche ajouta le plus petit cercle, qui incarnait la naissance de la vie. Logé à l'intérieur du carré, il touchait ses quatre côtés, au milieu de chacun, avec une précision au centième de pouce. Ainsi, la vie était en contact avec le voile qui la délimitait, lui-même touchant la lisière du royaume des morts. Toujours avec le sang de Callan, Nietzsche dessina à l'intérieur du plus petit cercle une étoile à huit branches. Partant de chacune des branches, des lignes traversèrent le cercle intérieur, le carré et enfin le cercle extérieur. Les quatre premières vinrent couper les coins du carré et les quatre autres traversèrent le centre de chacun de ses côtés. Chacune de ces lignes, après avoir traversé le cercle intérieur, le carré et le cercle extérieur, venait rejoindre une des huit bougies. Au moment de la connexion, chaque flamme crépita et de vives couleurs tourbillonnèrent à l'intérieur. La main désormais revêtue d'un gant rouge, Nietzsche releva la tête.
« Il me faut une goutte du sang de Richard. Utilise l'épée et apporte-la-moi sur la lame. »
Callan n'avait jamais entendu la magicienne parler avec cette voix-là. Sans prendre le temps de se poser des questions, elle gagna le lit, s'assit au bord, prit la main de Richard et la posa sur ses genoux. Enfin, avec la pointe de l'épée, elle perça le bout d'un doigt de son mari, appuya sur la minuscule plaie, fit perler une grosse goutte de sang et la recueillit sur le plat de la lame tout près de la pointe. Au contact du sang de Richard, la colère de l'arme magique s'éveilla. L'inquisitrice apporta la goutte de sang à Nietzsche. Avec 1000 précautions pour éviter de perdre son précieux prélèvement et en luttant pour ne pas se laisser distraire par la rage de l'épée. Le même sang, quelque temps plus tôt, avait servi à ramener sous la canne du royaume des morts. La faisant reposer sur ses deux paumes orientées vers le haut, l'inquisitrice tendit l'épée à Nietzsche qui secoua la tête et refusa de la toucher.
J'ai dessiné la grâce avec ton sang. C'est toi qui dois le faire. Dépose la goutte au centre exact du cercle intérieur. Même si ça ne peut être vu, ce cercle va désormais avoir un point central parfait et authentique. C'est en ce point que nous venons au monde quand nous sommes créés et quand il nous est donné une âme. Mais à la différence du cercle extérieur, entouré du commencement d'un éternel infini, ce cercle-là représente en quelque sorte une frontière extérieure, la mort, et circonscrit une surface où tout commence.
Callan plaça la pointe de l'épée au-dessus du cercle, à l'aplomb de son centre, puis laissa couler au sol le sang de Richard.
« Tu établis les liens avec du sang, » dit Rouge, réfugié dans les ombres. « Ainsi tu rends la grâce vivante. »
Nietzsche acquiesça.
La vie et la mort sont liées selon le principe qui connecte la magie additive à la soustractive, à savoir que chacune dépend de l'autre pour définir sa nature. Ainsi, d'une manière très concrète, il existe un lien entre toutes choses dans la création, y compris des éléments aussi basiques que la lumière et l'obscurité. Quand une ombre se projette sur le sol, elle n'est pas seulement liée à ce qui la projette et à ce qui la produit, mais existe aussi via la présence de la forme négative qu'elle génère. De ce fait, même dans une ombre apparemment élémentaire, toutes les choses sont liées, les positives comme les négatives, chacune dépendant de sa contrepartie pour exister. Exactement comme il faut des ténèbres pour révéler la lumière, le royaume des morts définit et délimite la vie. Dans une grâce, le sang confère à cette représentation de la vie une réalité qu'elle n'aurait pas sans lui. C'est l'essence même d'une grâce, l'illustration que les éléments ne sont pas séparés mais interconnectés.
Jadis, les sorciers voyageaient entre les mondes, souffla Rouge, hypnotisé par la grâce de sang. Depuis ces temps-là,
dit Nietzsche.
Ils ont oublié comment marcher sur le fil qui sépare la vie de la mort.
Certains n'ont pas oublié, corrigea Callan. Richard a su le faire. Il est allé dans le royaume des morts et il en est revenu.
Une autre aptitude des plus grands sorciers qu'il réussissait à imiter d'instinct, dit la magicienne. Une preuve de plus qu'il est bien l'élu.
Peux-tu faire comme lui? Demanda Callan.
Pour contacter la première spirit, c'était le seul moyen. Nietzsche répondit après un temps de réflexion.
J'étais une sœur de l'obscurité. Contrairement à Richard et aux sorciers d'autrefois, je ne peux pas voyager dans le royaume des morts, mais il m'est permis d'écarter le voile et de regarder derrière.
Callan jeta un coup d'œil autour d'elle.
Comment vas-tu faire pour sonder le monde des esprits ?
Nietzsche leva les mains et orienta les paumes vers le plafond. Dans la pièce, toutes les bougies s'éteignirent, à part les 8 qui entouraient la grâce. À l'extérieur de ce cercle lumineux, le monde parut sombrer dans le néant.
Avec pour source cette goutte de sang, la vie de Richard se projette vers toi, mère inquisitrice. Tout ce qui l'est te touche. Ainsi, il existe à travers toi, et c'est comme ça, en passant par toi, que j'accéderai au royaume des morts.
Callan, dit Rouge, assieds-toi au centre, près de la goutte de sang.
Des larmes sur les joues, l'inquisitrice enjamba délicatement les lignes de la grâce et prit place là où on le lui demandait.
« Pour sonder le royaume des morts, » dit Nietzsche, « je dois être capable de voir au-delà de notre monde, dans ce domaine des esprits qui existe tout autour de nous, au même endroit et en même temps que notre univers. » La contrepartie négative du positif, en d'autres termes la magie soustractive qui équilibre l'additive. L'ombre projetée par la vie, pourrait-on dire aussi. Appartenant à tout cela, nous allons avoir accès à tout ce qui nous entoure, y compris ce qui est d'habitude invisible. La lumière de ces bougies sera notre ancrage en ce monde, celui des vivants, nous rappelant ce que nous nommons la réalité.
Les propos de Nietzsche rappelèrent à Callan sa chute dans un puits de ténèbres où des démons l'entraînaient. Dans la mystérieuse langue qu'elle avait déjà utilisée, Nietzsche entonna un chant lancinant. Tremblante, Callan songea qu'il fallait être fou ou ivre d'arrogance pour oser se fronter au royaume des morts, ou ravagé par le désespoir après avoir perdu son âme sœur. Alors que l'incantation de Nietzsche la berçait, l'inquisitrice sentit un étrange fourmillement parcourir tout son corps, comme les échos de milliers de voix qui auraient essayé de lui parler. Selon ce que disait Nietzsche, ce sentiment devenait plus fort ou s'estompait. Quand la magicienne se tut, Callan posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Quelle langue parles-tu ? »
« C'est l'exact contraire du langage de la création, » répondit Nietzsche les yeux clos. Le langage de la mort. Les sœurs de l'obscurité l'utilisent pour invoquer le monde invisible qui nous entoure. Ce langage contient des éléments soustractifs qui permettent d'écarter le voile.
En un sens, tout ça était logique. Assise au centre de la grâce, Callan sentit soudain qu'elle appartenait au grand tout de la création. Mais au-delà du voile, parmi les innombrables âmes rôdant dans les ténèbres, comment identifier celle qu'elle cherchait? Comment reconnaître sa voix dans cette cacophonie?
« Un instant !» souffla Callan.
Nietzsche ouvrit les yeux.
« Une épée est sacrée lorsque sa lame est le dernier espoir. C'est bien ce que tu as dit. Je crois savoir ce que nous devons faire. »
Se relevant, Callan approcha du lit et retira son amulette à Richard, puis elle posa l'épée sur le torse du mort, lui ramena les bras sur la poitrine et referma ses mains sur la poignée de l'arme où le mot « vérité » était incrusté.
« Que la colère de l'arme soit ton phare dans les ténèbres » souffla-t-elle à son mari. « Que ton juste courroux t'aide à retrouver ton chemin » jusqu'à la légitime fureur que tu éprouvais contre le mal et tous ceux qui veulent détruire la vie. Que cette rage te ramène à nous et au combat pour la vie. »
La magie de l'épée bouillonna en réponse à cette harangue. Enjambant de nouveau les lignes de sang, Callan revint au centre de la grâce. Lâchant l'amulette qu'elle tenait par sa chaîne, elle la laissa tomber dans la paume ouverte de Nietzsche. Mieux valait ne pas se dire qu'elle venait de confier un antique artefact à une sœur de l'obscurité. Nietzsche passa la chaîne autour de son cou. L'amulette créée par Baracus en personne vint se nicher sur sa poitrine près de son cœur.
« Il est temps de danser avec les morts, » murmura la magicienne dans la pénombre.